Je crois que dans l'ensemble, les ésotéristes n'ont pas accepté vos travaux pour la plupart.
Ah si,
si parce que je
pour la structure absolue, si.
La structure absolue,
enfin,
si.
Les ésotéristes, vous savez, qu'est-ce que vous appelez les ésotéristes? Les ésotéristes, il y a ceux qui cherchent, il y a ceux qui, et ceux qui y répètent, ils sont comme des perroquets. Il y a les disciples des ésotéristes anciens qui répètent un catéchisme et qui ne font rien, et qui se contentent de répéter. Et c'est pour ça que moi, cela, je les aime, ils ne m'intéressent pas du tout. Vous avez des Guénoniens, par exemple, qui répètent Guéno perpétuellement, n'est-ce pas? Vous avez des Steineriens qui répètent Steiner. Steiner était un immense génie. Mais ses successeurs, ses épigones, ses élèves, c'est bon, on a répété son enseignement. Le vivent-ils? Ça, je ne sais pas dans le secret de leur conscience. Il faut vivre l'enseignement ésotérique, il faut le recréer, n'est-ce pas? Et l'intérêt de la science numérale, justement, c'est que ça vous oblige à recréer. La valeur symbolique des nombres, les relations, la signification des nombres. Et alors justement, le travail que nous avons fait, mon camarade et moi, là, hier chez moi, dans ce bouquin, n'est pas un simple travail formel, comme j'avais fait au début. Moi, au début, je m'étais contenté d'établir des liaisons, connaissant le texte, de savoir ce fait que dira ou jeunesse de Moïse, avec les mots hébreux. Je m'étais aperçu qu'il y avait des centaines et des centaines de relations. Car c'est par centaines qu'il faut chiffrer ça. Il suffit de se mettre à sa table et avec quelques modes opératoires très simples, on peut faire des milliers de coïncidences et de rencontres. Le texte ne sert pas à payer, c'est pas gratuit. Vous avez un texte. Si vous n'avez pas le texte, alors là, je dirais que c'est de la fantaisie pure. Et le texte vous oblige à rester avec ces chiffres, parce que le texte est bourré de chiffres, en plus. C'est pas bon, surtout le Zohar. Alors avec ce texte qui vous sert de parapet, quelques modes opératoires peu nombreux, parce qu'ils étaient nombreux, ça ne voudrait plus rien dire, mais quelques modes opératoires peu nombreux, vous avez des centaines de coïncidences avec le texte, coïncidences significatives. Alors ça, c'est évidemment formel, c'est de l'arithmétique en quelque sorte. Ça crée un effet de vertige parce qu'il y a beaucoup de relations et que fatalement, on essaie de les interpréter, métaphysiquement, c'est l'abîme dans lequel moi je suis tombé à la fin des années 40 et au début des années 50, ce que j'ai essayé prématurément, mais c'était une nécessité pour moi vitale de donner un sens à ces relations. Je ne me contentais pas d'un formalisme, je voulais que ces relations aient un sens métaphysique, philosophique. Alors là, pour parler vulgairement, je me suis aventuré, n'est-ce pas, et je suis même allé beaucoup trop fort. J'ai essayé, n'ayant pas l'instrument qu'il fallait, de donner des interprétations. Bon, vous les trouvez dans la Bible, documents chiffrés, c'est un fatras. Les clés, les modes opératoires, le code, d'une part le code, n'est-ce pas, et les modes opératoires, ça, c'est définitif, selon moi. Bien que je puisse dire, je puisse penser, a priori, que les modes opératoires, il y en a d'autres. Je n'ai pas étudié, par exemple, les lettres finales. Il est certain, il est probable, c'est presque certain pour moi, en tout cas, intuitivement, que les lettres finales peuvent introduire à d'autres modes opératoires, pas beaucoup, un ou deux, n'est-ce pas bien, mais enfin, je ne les ai pas pratiqués, c'est une question de pratique. Mais il y a en tout 6 ou 7 modes opératoires pour des milliers de coïncidences. Donc cette répétition introduit à ce qu'on appelle, en épistémologie, à la méthode des coïncidences. Quand il y a des coïncidences extrêmement nombreuses, on peut dire qu'il y a une loi derrière. Bon, c'est Bacon, n'est-ce pas, au début de la science classique qui avait dégagé cette sorte de théorème ou d'aphorisme. Dès qu'il y a de nombreuses coïncidences, il y a un phénomène. Dans un phénomène, quand ce phénomène se répète tout le temps, on peut penser qu'il y a une loi derrière. Parce que tous les corps tombent, si la chute des corps est constatée universellement, on se dit qu'il y a une loi de la chute des corps. On la cherche. Bien, mais c'est ce que j'ai fait. Il y a des milliers de coïncidences. Et j'essaie, malheureusement, quand j'ai voulu mettre ça en théorie, je n'avais pas les instruments théoriques suffisants pour. L'expérience était trop riche pour les théories dont je disposais, si vous voulez. Alors là, j'ai fait mes numéros épouvantables, n'est-ce pas, très confus. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on réimprime la Bible document chiffrée à partir de 1954-55, parce qu'au même moment, je travaillais sur la structure absolue. Et alors, ce n'est qu'après que j'ai eu dans une certaine mesure de maîtriser cet instrument avec des amis, que nous avons donc repris ces calculs. Les calculs restent ce qu'ils sont, ils sont exactement les mêmes, les relations sont exactement les mêmes, l'arbre de Séphiroth, numéralement, est exactement composé des mêmes nombres, mais il s'agissait ensuite de mettre l'interprétation derrière et d'organiser ces relations, de les mettre en structure. Alors ça, c'est fait. Alors ça, c'était, il y a un double aspect. Il y a donc, en plus, il y a un triple aspect, en plus d'un aspect donc purement formaliste, numérologique, arithmétique, en quelque sorte, qui consiste à faire des additions et à mettre des nombres en rapport les uns avec les autres, puis faire des filiations de nombres. Bon, ça, c'est purement formel. Nous avons, dans le bouquin sur la numérologie que nous avons publié récemment, étudié deux autres aspects. Ça n'épuise pas le sujet, hein, du tout, mais enfin, c'est quand même important. L'aspect sémantique, d'abord. On s'est aperçu très vite, alors ça, c'est un courant relativement neuf depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis un an, dans l'exégèse biblique, on s'est aperçu que les traductions ordinaires, l'opération de Séphirot, par exemple, ou bien les traductions habituelles de la Bible, le Jardin d'Éden et autres, étaient extrêmement imparfaites. Extrêmement imparfaites. Elles étaient très dérivées. Elles étaient à un niveau d'interprétation déjà très bas. Et qu'il fallait donc lorsqu'en remonter au niveau métaphysique. D'ailleurs, la tradition vous dit toujours, les Écritures ont plusieurs sens. Il y a le sens littéral, habituel, le sens banal, n'est-ce pas, trivial. Il y a le sens symbolique, le sens analogique, enfin, voyez-vous, le sens hiéroglyphique, etc. Bon, il y a la différence en disant qu'il y en a trois, si vous voulez, en gros. Il y a le sens banal, littéral, le ciel et la terre, Dieu créa les cieux et la terre, bon, c'est pas ça du tout, bien entendu pas, n'est-ce pas. Et ensuite, il y a le sens, si vous voulez, symbolique de ces mots, et puis il y a le sens analogique, c'est-à-dire le sens vraiment spirituel, ou hiéroglyphique, si vous voulez, ni c'est certain. Donc il y en a trois en gros. Maintenant, dans le Zohar, vous trouvez qu'il y en a 70, c'est l'ombre symbolique, évidemment. Et on s'est aperçu qu'il fallait donc remonter au sens réel des mots hébreux, donc aux racines, au sens métaphysique des racines hébraïques. On a eu des surprises extraordinaires.